Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Olivier Vigneault qui est donc co-président de BETC Digital. On se connaît pas, on s'était jamais vu. On est dans les bureaux à Pantin de BETC. Et alors, j'ai contacté Olivier parce que ils ont fait une étude sur les teens, qui est, je crois, pour les marketeurs un sujet infini d'intérêt. Et avec cette catchline qui était, vous avez rien compris aux teens, vous avez rien compris aux ados. Alors la première question, elle est relativement simple, c'est qu'est-ce que les gens ou qu'est-ce que les marketeurs n'ont pas compris aux ados?
En fait, on s'est intéressé à cette cible parce qu'elle elle passe sa vie avec le mobile entre les mains, elle est baignée de digital, et on se dit que c'est extrêmement intéressant de regarder ce qu'ils font pour comprendre ce qui va se passer demain. Et pourquoi on dit que les gens n'ont rien compris aux teens, c'est qu'il y a plein d'idées comme ça un peu préconçues sur justement leur amour de la technologie, par exemple. Ouais. Le fait que c'est une génération très digital native, etc. Ouais. Et en fait, ça, c'est quand même beaucoup de clichés, et personne ne dit le contraire de ça. Et en fait, quand on creuse un peu et quand on s'intéresse à cette cible, on se rend compte que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est une population, des gens qui, effectivement, respirent cet air qui est digital, mais pour qui ce n'est même pas un sujet. Donc, c'est même pas qu'ils sont digital natifs, c'est qu'en fait, ça ne les intéresse même pas parce que ce n'est pour eux qu'un outil qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que leurs parents, beaucoup mieux que les adultes, et dont ils ont exploré des tas d'usages qui sont parfois méconnus des plus vieux. Et c'est pas un intérêt en soi pour eux.
C'est marrant ce que tu dis parce que moi, quand je donne des cours, donc je suis prof dans plusieurs universités, mais entre autres à Dauphine, et à chaque fois, ils me font ah non, mais les digital natifs, c'est pas nous, c'est ceux d'après, en fait. Et c'est cette intégration, je pense que cette croyance qu'ils sont digital natives, que tout doit être digital, etc., sur les teens, est complètement fausse, parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, quand on regarde d'autres études, ils te disent, pour moi, le luxe, c'est la vraie vie, en fait. Alors peut-être que cet événement dans la vraie vie, je vais m'utiliser Google Maps pour y aller, mais en fait, et peut-être que je vais me connecter avec mes potes pour voir qui est là, etc., et je vais utiliser un outil digital à un moment donné, mais la finalité, c'est pas l'outil digital, c'est juste un moyen XY, en fait.
Alors que l'illusion que peuvent avoir certains marketeurs et les générations un peu plus âgées, qui, eux, ont vécu sans digital et qui ont connu l'arrivée de ça, et donc qui l'ont vécu comme quelque chose de nouveau et d'attractif en soi, ça leur est totalement étranger, parce que c'est comme si nous, on nous disait, oh là là, il y a les passionnés de télé, mais on n'a jamais vécu dans un monde sans télé, donc on comprend même pas de quoi il s'agit.
Ça fait penser à cette... Enfin, j'utilise un truc comme ça dans mes slides parfois, à Fonzie, tu vois, qui est donc le mec hyper cool de Happy Days. Et en fait, ce que je prends comme exemple, c'est que si tu mets le même perfecto, le même t-shirt blanc, la même coupe de cheveux, donc que tu essayes d'être cool en copiant et en surjouant finalement le truc, finalement, tu as l'air d'un gros blaireau. Et finalement, je pense que les marques, souvent, elles ont l'air de... débile à vouloir mettre du digital partout pour paraître cool, mais en fait c'est pas cool de mettre du digital partout, c'est pas ça l'enjeu, en fait.
Bah, disons que l'enjeu, c'est comprendre quels sont les ressorts qui les intéressent vraiment, et effectivement les usages sont très digitaux, on a plein de choses à apprendre ensuite du fait qu'ils se connectent quasiment toute la journée, mais en essayant de comprendre pourquoi et pour leur apporter des choses qui les intéressent sur le fond et qui ne sont pas des gadgets digitaux. Par exemple, on s'est rendu compte que ce qui les intéresse dans la connexion, dans l'addiction vraiment aux réseaux sociaux, ils savent même pas ce que c'est que les réseaux sociaux, d'ailleurs la définition, de quoi vous me parler, je ne comprends même pas ce que c'est. En fait, eux, ce qui les intéresse, c'est l'amitié. C'est ça, lien avec leurs amis. Et donc, en fait, pourquoi ils sont accros à Snapchat ? Parce que c'est le meilleur moyen de ne jamais perdre le contact avec leur communauté. Et ça, ça a du sens. Mmh. Mais l'outil en tant que tel, ils ne sont pas complètement fous de Snapchat comme on peut l'imaginer. Ils sont fous de leurs amis.
Ouais, c'est ça. Alors du coup, c'est quoi les... Alors là, c'en est un, une croyance qui était fausse. C'est quoi les autres croyances ou les autres préjugés qui sont... complètement erroné en fait.
Le gros enseignement aussi, c'est que en fait, je dis qu'ils s'intéressent pas au digital, c'est vrai parce que c'est pas une fin en soi, mais en fait c'est des vrais pros. C'est-à-dire qu'ils ont des usages extrêmement sophistiqués et vraiment professionnels des plateformes. Par exemple, on s'est rendu compte que la plupart, donc on a regardé plutôt les 12-17, ouais. La plupart d'entre
c'est
eux.
C'est en France, hein.
Oui, en France. Et on a fait, c'est du quali, hein. On a fait beaucoup d'interviews, on a dû faire une cinquantaine d'interviews et on a fait des groupes. Et on s'est rendu compte, par exemple, que la plupart, si ce n'est tous, avaient deux comptes Instagram. Donc, alors, on se disait quand même, ça, c'est des usages déjà un peu avancés, mais pas du tout. C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'on a un compte Instagram officiel qui est l'image sociale que l'on a décidé de projeter. Donc, ils sont quand même dans un auto-branding assez précis,
assez sophistiqué,
ouais. En ayant conscience que, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'images. Donc, d'ailleurs, quand on regarde les adultes, moi, je sais pas, mon compte Instagram, j'ai des milliers de photos parce que bah, j'ai l'impression que ça documente ma vie. Et puis, le rapport au temps qu'on a quand on est un peu plus vieux, c'est de se dire, j'ai quand même envie de garder des choses. Mm-hmm. Alors, eux, ils s'en fichent complètement. En fait, eux, le sujet, c'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce qui est pertinent maintenant ? Parce que, voilà, le passé, ça, c'est pas très intéressant. Ouais. Si ça a 6 mois, c'est pas très intéressant.
Et d'ailleurs, on voit bien que sur Instagram, enfin dans les usages, enfin moi dans mes usages, et je l'ai vu, pas dans des études, mais je l'ai vu dans des gens qui en parlent sur Twitter, les stories, donc le temps réel, ce dont tu parles, a pris une ampleur phénoménale. C'est-à-dire qu'en fait, au point où maintenant tu dis sur Instagram Stories, by the way, j'ai mis une nouvelle photo sur mon profil parce qu'avec le nouvel algorithme, en fait, les gens ne le voient pas nécessairement.
Absolument, oui, ça c'est d'ailleurs un problème, cet algorithme. Ouais. Je suis un peu catastrophé à titre personnel. Mais donc eux en fait se disent ce qui compte c'est j'ai un compte officiel. Ouais. Donc il y a quoi ? Il y a 15 images et ce sont les 15 images pertinentes de en fait c'est un peu en ce moment j'ai décidé de me brander comme ça et donc on s'est même rendu compte qu'ils faisaient des comités éditoriaux avec leurs meilleurs amis pour se dire bon c'est quoi la meilleure photo ?
C'est vraiment des usages, les mecs font vraiment
non,
ça.
Non mais ils font vraiment ça. Ils font vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait ils disent non mais moi je demande à mes copines est-ce que cette photo qu'est-ce que t'en penses ? Je la laisse pas. Donc c'est un vrai sujet. En fait, ouais. C'est un sujet, voilà. Qu'est-ce que je fais de ça ? Et puis après, j'ai un autre sujet qui est mon Instagram fermé, où là, en revanche, il y a très peu d'abonnés et énormément de photos. Et là, c'est au contraire, les bêtises d'ado, des choses qu'on a envie de montrer à personne. Et évidemment, surtout, on accepte très peu de gens sur ce compte-là. Et ils ont vraiment deux personas. Et il y en a même qui utilisaient ce terme. Bon, là, je pense qu'eux, ils étaient un peu...
Ils étaient un peu avancés quand même.
Un peu des parents dans le marketing. Mais quand même, il y a quand même cette maturité. Et il y a aussi une maturité qui est assez marrante, c'est que, en fait, c'est pour moi, c'est vraiment le terme majeur, en fait, cette idée de maturité, c'est qu'ils sont capables de détourner les plateformes. Ils ne se conforment pas à ce que la plateforme soi-disant attend d'eux. Donc, ils utilisent évidemment Instagram pour draguer.
Ah oui, on parlait du deep like.
Le deep like, ça veut dire, ah oui, je suis allé chercher une vieille photo et j'ai mis un like. Et alors, si j'ai mis un cœur bleu, évidemment, c'est pas comme si j'avais mis un cœur rouge, parce qu'il y a quand même une hiérarchie.
Évidemment.
Mais c'est quand même assez fin. Moi, je pense que je suis capable de commettre des impairs. mais donc, c'est une manière de drague. Mais de la même manière que j'avais vu une conférence à South by Southwest il y a 2 ans, où ils expliquaient que dans un collège, ils utilisaient Evernote. Et qu'en fait, Evernote était devenu leur messagerie et leur espèce de mini réseau social dans la classe. Tout simplement parce qu'en fait, dans Evernote, on peut utiliser des fonctions de commentaires qu'eux, ils détournent pour en faire un usage de commentaires collectifs.
Mais
c'est normal parce qu'en fait, nous, on se dit quand même, on nous propose des outils digitaux et quand même, on a tendance à se dire, je vais l'utiliser pour ce pourquoi il est fait.
Ouais.
Eux, c'est pas ça, c'est ils ont des choses entre les mains, ils essayent, ils tentent, ils se rendent compte qu'il y a un truc à faire, et naturellement, c'est même pas calculé, c'est naturel.
Le fameux hacking. Et alors du coup, il y a aussi un des éléments que j'ai vu que je trouvais intéressant dans les catchlines que vous avez sortis pour vendre la presse. qui était Norman, donc en fait toutes ces marques qui veulent être cool à travailler avec des youtubeurs, et qui disaient Norman c'est le mec des années 2000 quoi. C'est-à-dire qu'en fait une marque elle peut encore avoir l'association que donc Norman fait des vidéos, c'est le mec hyper cool à la mode chez les jeunes, et en fait on se rend compte, et ça c'est, il y a une vraie accélération du temps, je pense que ça a échappé à personne, mais il y a aussi une accélération des influenceurs, c'est-à-dire qu'un influenceur, et moi j'étais comme je te disais tout à l'heure, mais DG d'une boîte qui faisait ça il y a 10 ans, et en fait il y a 10 ans quand tu étais influenceur tu restais influenceur pour un petit moment en fait, et aujourd'hui on se rend compte que l'influenceur eh ben, ça bouge en fait, c'est-à-dire qu'en fait et c'est difficile pour les marques du coup et les agences, c'est-à-dire qu'en fait ça ne peut jamais être les mêmes personnes, enfin jamais, ils restent pas très longtemps influenceurs.
C'est vrai qu'ils nous ont dit effectivement, Norman et Cyprien, la quote c'était oh là là, ça fait tellement youtubeur des années 90. Enfin, la phrase épouvantable.
Il n'y avait pas YouTube.
Non, mais c'est, la, c'est comme quand on dit les gens... années 80. Tu vois, ouais, pour c'est ça. Ça, c'est vraiment. Ouais. Ça fait tellement années 90. En fait, dès que finalement il y a un statut qui devient voilà, Norman, en fait, ça devient une vedette. En fait, il y a une sorte d'éloignement. Et donc, ce n'est plus aussi pertinent parce que ce qui est pertinent, c'est la proximité, ouais. Vraiment la familiarité, en fait, ouais. Qui fait que je me dis ah oui, c'est un peu ma vie à moi aussi et je me sens vraiment proche. L'idée que ce sont des gens très authentiques, voilà, dans lesquels ils peuvent se projeter. Il y en a quand même, la plupart d'entre eux disent en fait, j'ai plus confiance en certains youtubeurs pour m'aider dans ma vie que dans mes amis. C'est quand même hallucinant. Il y en a 4/10 qui disent ça. Ça, c'est une étude en fait à laquelle on s'était référé dans le deuxième volet de notre étude Beauty Settings. Donc quand même 4/10 qui disent je fais plus confiance à des youtubeurs pour me comprendre qu'à mes amis. Ça veut dire que il y a cette idée que voilà, il y a une espèce de proximité de fond. Et puis en fait, ils sont là pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que en fait, il y a tout le volet entertainment, bien sûr. Bon, bah ça voilà, c'est pour, on est là pour rigoler. Et ça fait évidemment partie de leurs usages. Mais en fait, finalement le mot clé qui remonte, parce qu'ils sont la plupart d'entre eux utilisent YouTube tous les jours, ouais. Tous les jours, c'est comment.
C'est-à-dire, oui, c'est donc, en fait, de la même manière.
Et donc, en fait, on se rend compte, alors on le sait un peu intuitivement, mais on se rend compte que pour eux, c'est une espèce de seconde nature. C'est en fait, dans YouTube et dans les vidéos, il y a réponse à absolument tout. Et donc, les gens qui sont influents pour eux, c'est des gens qui, à un moment donné, ont répondu à quelque chose. Que ce soit voilà, un truc sur. J'en sais rien, très fonctionnel. Il s'intéresse beaucoup à la science, par exemple. C'est marrant, en fait. Finalement, il y a plus de vidéos un peu dites sérieuses qu'on ne l'imagine, qui les intéressent, parce que bah, c'est leur culture. C'est une culture générale qui n'est pas si pauvre que ça.
Ils vont regarder les vidéos TED.
Ouais, ils vont regarder. Alors, TED, c'est un peu loin pour eux, mais c'est plutôt des gamins qui font de la vulgarisation sympa. Mais par exemple, ça va jusqu'à des choses super précises comme, ça c'est pour les plus vieux, mais les parcours par exemple pour passer son permis, donc ça c'est plutôt pour les 18, ils sont tous sur YouTube avec le commentaire des endroits un peu tricky sur le parcours pour l'ensemble des parcours des gens qui passent le permis dans toutes les villes de France. Non mais c'est incroyable.
C'est super.
Donc tu dis ah oui alors je le passe à Massy, ah bah alors à Massy fais gaffe parce que alors donc en fait il y a quelqu'un qui l'a filmé, il y a quand même des gens qui ont pris la peine de le filmer.
Super.
Donc non, c'est pour les plus vieux mais c'est un bon exemple je trouve parce que ça raconte à quel point pour eux c'est l'outil de la vie.
Aujourd'hui, on a tendance à penser que, alors, tu sais, entre marketeurs, on dit tous, oui, non, mais tu sais, Facebook, l'âge moyen, c'est 43 ans, c'est pour les adultes. Aujourd'hui, les enfants, ils veulent plus trop être dessus parce que les parents sont là. C'est quoi leur vision de Facebook?
Alors, leur vision de Facebook, c'est un peu distancié, ouais. Effectivement. parce que, déjà, il y a le problème, effectivement, de, il y a toute la famille, donc, c'est quand même compliqué de se sentir chez soi alors qu'il y a les grands-parents. J'adore cette quote d'une des jeunes filles qu'on a interrogées qui nous dit ma mère arrête pas de me dire qu'elle n'est pas ma copine et après elle me demande en friend sur Facebook donc je ne comprends pas. Voilà, c'est quand même du bon sens effectivement. Donc en fait ils sentent que c'est un peu le nouveau LinkedIn pour eux. Ouais. C'est assez marrant. C'est qu'ils se disent en fait c'est un endroit plus sérieux où il y a les grands, où d'ailleurs il y a plein de fonctionnalités parce que comme ils sont assez en fait ils aiment bien les plateformes qui sont assez modernes. Nos tâches.
D'accord.
Donc voilà.
Même si après ils les utilisent de manière différente.
Et donc après ils peuvent les détourner, mais au départ quand même ils se disent bon voilà, alors Snapchat c'est pour communiquer en vidéo avec mes amis. Voilà. Instagram c'est une espèce de branding où l'Instagram fermé c'est là où je mets toutes les photos dossiers avec mes copains, mais point. Facebook, comme c'est protéiforme, c'est un peu plus compliqué pour eux. Et donc, c'est quand même un peu l'entrée dans le monde des adultes. C'est comme quand on leur demande aussi s'ils ont des emails. Ils disent quoi ? Un email ? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment d'email. En fait, c'est pas pour eux, l'email, c'est le truc un peu administratif obligatoire quand on commence à devoir, par exemple, trouver un stage.
Ouais.
Donc, ça veut dire le monde des grands. Mais pour eux, sinon, l'email...
C'est juste pour s'inscrire sur les plateformes.
C'est-à-dire que si vous voulez targeter des ados et envoyer des emails, c'est pas la peine.
Ouais,
non,
ça
ne regarde pas. C'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà, donc pour eux, c'est pas que ça fasse pas du tout partie de leur vie. Ils connaissent Facebook, évidemment, c'est important. Mais c'est pas leur usage quotidien, parce que leur usage quotidien, c'est leur propre plateforme. Donc c'est d'abord quand même Snapchat, Instagram.
Et alors du coup, puisqu'on parle de partage en ligne, il y a aussi tout ce sujet sur la vie privée, la privacy, où on a tendance à dire oui, non, mais les jeunes, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils partagent toute leur vie sur les réseaux sociaux, ils vont le payer plus tard, etc., etc.
Et ben là-dessus, moi j'ai été très étonné par leur rapport à la vie privée, parce que ils ont compris énormément de choses et ils sont très conscients des enjeux. Et c'est notamment la raison pour laquelle ils ont un compte privé sur Instagram pour toutes les photos qu'ils ne souhaitent pas diffuser. Ils ont tous eu des expériences de gamins dans leur classe, dans leur entourage, qui ont eu des problèmes avec... Alors, l'absolu danger, c'est les photos de nude. Donc ça, souvent, ils considèrent que c'est vraiment l'horreur. Mais par exemple, des gamins qui ont pris des photos...
Cela dit, moi, j'ai jamais fait de photos de nude, mais eux, ils en font pas mal. Hein,
bah, ils en font, mais ils font très attention. Parce qu'en fait, ils ont tous eu des expériences de gens qui ont eu des problèmes avec ça. Et donc, en fait, ils maîtrisent bien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont un peu à distance avec Facebook. Parce qu'ils ont l'impression, dans ce qu'ils nous disent, que c'est pas si simple d'être sûr de ce qui est visible et pas visible sur Facebook. Parce que la plateforme est plus complexe. Ouais, alors vrai. Que sur les autres plateformes, c'est clair. Je sais ce que je partage et je sais ce que je ne partage pas. Et ça, pour eux, la règle du jeu, c'est essentiel. Donc, une assez grande maturité aussi sur le rapport à la vie privée et ce qui est partageable ou non.
Un des sujets aussi qui me semble hyper important, c'est quoi leur relation à la pub et c'est quoi leur relation aux marques.
Ce qui est frappant, c'est que... Ils ne sont pas du tout anti-marque, ils ne sont pas du tout anti-marketing. Simplement, c'est un peu comme s'ils avaient un ad-blocker directement dans la tête. C'est-à-dire qu'ils disent « Bon, quand ce n'est pas intéressant, de toute façon, je ne le vois pas vraiment. » Donc, ils ne sont pas vent debout contre l'interruption de leur parcours sur le digital. Ils disent « Oui, bon, des fois, ils essaient de me parler. » En même temps, avec beaucoup de bon sens, ils disent « Bah oui, c'est normal, les marques, elles essayent de faire leur business. » Enfin, gentiment, voilà. Et en revanche, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, ils nous disent « En fait, ce qu'on aime bien, c'est la pub très ciblée. » parce qu'au moins, elle a plus de chances de nous intéresser. Donc là encore, pragmatisme et bon sens, ils se posent pas... En fait, ils se doutent bien que de toute façon, leurs parcours sont traqués. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une grande conscience de la nécessité de protéger leur vie privée. En même temps, ils savent très bien que tout ce qu'ils font est forcément mesuré quelque part. Ils l'ont intégré, ça fait partie de la vie. Et du coup, ils se disent, bah tiens, ça permet au moins... Moi, si j'aime le foot, je préfère avoir des messages qui concernent une équipe de foot et un match que des messages sur la danse. Enfin, c'est un petit gamin qui nous disait ça de manière aussi évidente que ça. Et on comprend. Donc, en fait... Finalement, ils sont ouverts à la pertinence. Donc, c'est à nous d'être pertinents et contextuels. Ouais. Mais ils ne nous disent pas « Ah, je ne veux pas du tout de marque dans ma vie digitale. » Pas du tout. Ils disent « Bah,
d'ailleurs, ils n'ont pas de vie digitale. Enfin, je ne pense pas qu'ils l'envisagent. »
D'ailleurs, dans ma vie. Mais voilà. Mais du coup, en fait, ils considèrent que dans la vie, la pub, oui, elle a sa place. Ouais. Tant qu'à faire, il faut qu'elle soit pertinente.
Ouais, voilà. Tant qu'à faire. Et donc, du coup, ils sont... C'est là où on peut rediscuter de la privacy, où en fait, ils maîtrisent bien leur vie privée et en même temps, ils savent qu'on l'utilise et ils préfèrent qu'on l'utilise pour donner de la pub.
Bah, tant qu'à faire, ils préfèrent qu'on l'utilise pour leur proposer des choses qui leur soient utiles et qui les intéressent. Donc, au nom de la pertinence, ça a l'air de leur aller.
Donc, du coup, ça implique que chez les marques, enfin, ce que ça veut dire aussi, c'est cette capacité à utiliser de la data, à faire des clustering clients hyper précis pour vraiment cibler de manière... pertinentes les consommateurs.
Absolument, ouais, exactement.
Et alors j'ai une dernière question que je pose de manière systématique. C'est ce podcast qui s'appelle Vlan. Donc à qui ou à quoi tu aimerais claquer la porte aujourd'hui ?
Je crois que j'aimerais bien claquer la porte à tous les briefs de brand content. Parce que en fait, je me rends compte que ce sujet, quand il est pris comme ça, c'est-à-dire que d'ailleurs, que ce soit pour la cible des ados ou pour n'importe quelle cible, c'est toujours la même chose. Quand on l'envisage en se disant « Tiens, je veux faire du brand content », je trouve que c'est d'une paresse infinie. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Enfin, évidemment que ça ne veut rien dire. Mais même si tout le monde se dit ça, au fond, on arrive quand même à avoir des gens qui nous disent « Non, mais en fait, il faudrait que je fasse du brand content ». Et alors que le sujet, c'est pas du tout ça. Le sujet, ça n'est que la compréhension des parcours des gens et de l'expérience qu'on a envie de leur proposer. Et de temps en temps, il y a besoin de contenu au fil de ces parcours. Et des contenus qui sont, si possible, un peu pertinents, un peu contextuels et qui apportent quelque chose. Et cette idée que tout d'un coup, les marques doivent inonder le digital.
Avec always on strategy.
L'écosystème digital, non, mais allons-y gaiement, et de always on, voilà, exactement. Pour moi, c'est une espèce comme ça de vision finalement complètement très datée et qui n'est pas une compréhension fine de ce qu'on peut proposer d'intelligent aux gens. Donc
Et en même temps, ça fait le chou blanc des agences qui font les créer le contenu. Hein.
Ouais, enfin, oui et non, parce que en fait, souvent, avec ce sujet, va l'idée que ça pourrait être fait très rapidement, pas cher du tout, mais avec beaucoup de qualité.
Ouais, okay.
Et l'idée que on peut infiniment produire de la qualité, c'est pas vrai. La qualité, c'est il vaut mieux de temps en temps un peu moins parler, mais parler intelligemment, ouais, avec des choses à dire utiles, un peu comme ce que tu fais avec ton podcast, que d'essayer de se dire qu'on va être présent pour être présent. Donc, ouais. En fait, il y a quand même cette idée un peu en filigrane avec le brand content que je vais produire et
finalement... Au bout d'un moment, c'est meilleur un engagement quelque part, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on crée vraiment de la valeur pour les marques. Il y a des choses plus précises à faire. C'est ce que j'essaie de faire.
Parfait. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.